Bonjour Sébastien Fatt, vous êtes chercheur au groupe Société, Religion, Laïcité. Vous travaillez sur l'histoire et la sociologie du protestantisme, sur la géopolitique de l'évangélisme, sur le méga-église et sur les réseaux évangéliques, ainsi que sur les thèmes liés à l'immigration, l'interculturalité, les mutations religieuses en ville. Au GSRL, vous êtes notamment responsable, avec Martin Cohen, du programme de recherche « Dieu change à Paris ». Programme qui porte sur les principales mutations qui marquent de nos jours l'espace religieux et laïque de Paris et de l'Île-de-France. Nous allons traiter avec vous aujourd'hui de la francophonie protestante. Mais qu'est-ce que la francophonie protestante ?
Tout d'abord, merci Sabrina de cette occasion de présenter un petit peu plus cet objet pas forcément familier hein, pour nous autres Français, qui est le protestantisme. Alors d'abord, en une phrase, qu'est-ce que c'est que le protestantisme ? C'est un christianisme qui a déplacé le cœur de la légitimité d'une institution vers un texte. Bon, ce qui fonde le protestantisme, ce n'est pas une institution centralisée. Il y a une multiplicité d'églises chez les protestants, on en reparlera dans quelques instants. Ce qui fait le cœur de l'identité, c'est le rapport à la Bible, au travers d'un interprète autorisé, qui peut être un pasteur ou un prophète, et on reparlera aussi tout à l'heure des pasteurs et des prophètes. Alors maintenant, la francophonie protestante, qu'est-ce que c'est ? C'est en quelque sorte un nouvel objet de recherche, je dirais, qui est en phase aussi avec ce que nous observons en ce 21e siècle globalisé, où les frontières nationales sont de plus en plus euphémisées, même si l'Europe aujourd'hui cherche à rebâtir des murs, mais on sait bien que les populations circulent de plus en plus, les biens culturels, les biens religieux circulent de plus en plus. Et une langue, c'est un espace culturel transnational. C'est pas simplement un vocabulaire, c'est pas simplement des mots, c'est aussi une culture, c'est aussi éventuellement une religion. Et donc la francophonie protestante, c'est tout ça, hein, cet espace transnational qui va du Québec au Vietnam, en passant par la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, et naturellement de nombreux pays africains où l'on parle français et où par ailleurs, sur le plan religieux, eh bien, on vit sa foi, on vit ses convictions religieuses sur le mode du protestantisme, ou plutôt des protestantismes, puisqu'encore une fois, nous sommes là vraiment dans une identité religieuse complètement plurielle.
Vous revenez d'ailleurs d'une mission en République démocratique du Congo, et est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces protestants congolais ? Qui sont-ils ?
Oui, alors, je dois tout d'abord dire qu'arrivé à Kinshasa, et me rendant à l'université protestante au Congo, j'ai vraiment eu un choc. Un choc pourquoi ? Parce que là, je me suis retrouvé sur un grand campus, 7000 étudiants protestants, vraiment marqués par l'identité protestante, y compris d'ailleurs ceux qui n'étudient absolument pas la théologie protestante, mais ils ont quand même des cours de religion protestante. 7000 étudiants, un poumon francophone extraordinaire, où par ailleurs donc, on se définit comme protestant. Et c'est vrai que venant de France, qui est un pays historiquement marqué par le phénomène minoritaire hein, pour le protestantisme, depuis la révocation de l'édit de Nantes, les protestants ont toujours été une petite minorité en France, hein, 2 ou 3%, pas davantage. Là, c'est un véritable choc hein, dans un pays qui compte à peu près, hein, à peu près 30 millions de protestants francophones. C'est tout à fait spectaculaire et ça nous invite vraiment au décentrement méthodologique, à sortir du nationalisme méthodologique. Juste un chiffre, un protestant francophone sur 22 seulement est français aujourd'hui. Ce qui veut dire que dans la francophonie protestante, vous avez 21 protestants sur 22 qui ne sont pas français. D'accord. Dont beaucoup au Congo, RDC, effectivement.
Et au Congo, RDC, à côté d'un nombre important d'églises évangéliques dont vous allez nous dire davantage tout à l'heure, on trouve aussi ce qu'on appelle les églises de réveil. De quoi s'agit-il exactement ? Pouvez-vous nous préciser sur ce point ?
Effectivement, on s'y perd un petit peu hein, dans cette diversité protestante. Il est important de définir précisément les termes. Alors tout d'abord, peut-être le terme évangélique, c'est une sensibilité protestante qui a actuellement le vent en poupe. Pourquoi ? Parce que c'est une religion de conversion. L'évangélisme, le protestantisme évangélique met l'accent sur l'identité par conversion, c'est-à-dire qu'on n'est pas chrétien de naissance, on n'est pas chrétien parce qu'on s'inscrit dans un héritage, dans une lignée croyante, pour reprendre les thèses de Daniel Hervieux-Léger. On est d'abord chrétien suite à une expérience personnelle qui réoriente la trajectoire biographique avec un avant, un après, une lecture assez binaire des choses, et avec une réappropriation très personnelle, très subjective des contenus doctrinaux. Donc ça, c'est la spécificité de l'évangélisme, à l'accent sur la conversion, et puis naturellement ensuite l'action aussi sur la dynamique militante, puisque ce qui fait le chrétien, c'est la conversion, bien nécessairement, il s'agit de présenter l'offre de salut pour que les individus se convertissent à leur tour et rejoignent les cercles de l'évangélisme. Alors, au plan mondial, l'évangélisme aujourd'hui, c'est à peu près 610 millions de chrétiens. On n'est pas 5 ou 10 millions de chrétiens près. Donc, un chrétien sur quatre dans le monde est évangélique. Il constitue une large majorité au sein du protestantisme mondial. Et cette majorité est particulièrement nette en Afrique de l'Ouest et notamment au Congo RDC. La très grande majorité du protestantisme congolais aujourd'hui peut être rattachable à la mouvance évangélique, que ce soit directement en tant que tel ou, je dirais, sous le signe d'une sensibilité évangélique. C'est-à-dire que, par exemple, des églises qui, en Europe, ne seraient pas nécessairement qualifiées d'évangéliques, au Congo, sont très fortement marquées par une sensibilité évangélique conversionniste. Et alors, au sein de cette matrice évangélique conversionniste, se sont développées, depuis plusieurs dizaines d'années déjà, des auto-entrepreneurs protestants, marqués notamment par le prophétisme, marqués par ce qu'on appelle le pentecôtisme, qui est une version de l'évangélisme qui met l'accent sur l'efficacité de l'agir divin au travers du Saint-Esprit, et qui se marque notamment par la guérison miraculeuse, considérée comme miraculeuse, par la prophétie, et par ce qu'on appelle la glossolalie, c'est-à-dire la prière en langue. Le croyant prie dans une langue inconnue, bon, c'est considéré comme une des caractéristiques du pentecôtisme. Et sous l'effet de ces éléments, se sont développés donc, depuis quelques dizaines d'années maintenant, ce qu'on appelle des églises de réveil. Alors pourquoi réveil? Qu'est-ce que ça veut dire réveil finalement? Là, c'est un renvoi aussi à l'histoire protestante. Le protestantisme n'a pas d'institution centralisée, n'a pas de magistère. Et donc, pour se pérenniser, pour se transmettre, il a eu besoin historiquement, depuis le XVIe siècle, de phases de remobilisation militante, qui passent par la création éventuellement de nouvelles églises, de nouvelles institutions, mais qui passent aussi par la régénération de l'individu, par la conversion spectaculaire de l'individu. C'est ce qu'on appelle le réveil, et il y en a eu plusieurs dans l'histoire du protestantisme. Et au Congo, donc, ces églises de réveil prétendent quelque part refonder le christianisme. Refonder le christianisme au-delà des étiquettes confessionnelles classiques. Et elles ont aujourd'hui vraiment le vent en poupe. C'est un phénomène tout à fait spectaculaire, avec également de multiples questions qui se posent, des dérives sectaires, à droite ou à gauche. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi des dérives sectaires. Et c'est un terrain absolument passionnant, je dirais d'autant plus pour un chercheur qui vient d'Europe, que finalement, ça nous permet aussi de questionner quelque peu notre manière de comprendre le christianisme. Nos catégories, en tant qu'historien du christianisme, ont été forgées principalement à partir de l'histoire européenne. Quand on dit catholicisme, quand on dit orthodoxie, quand on dit protestantisme, toutes ces catégories-là, finalement, ont du sens par rapport à l'histoire du christianisme en Europe. Et on s'est arrêté à ces catégories, et alors obstinément encore aujourd'hui, lorsqu'on voyage, notamment outre-Méditerranée, on va avoir tendance à essayer de se dire, bah, finalement, ce que j'observe là sur le terrain, dans telle ou telle banlieue de Kinshasa, est-ce que ça rentre dans la case catholicisme? Est-ce que ça rentre dans la case protestantisme ou dans les sous-cases que l'on connaît du protestantisme? Est-ce que ça rentre éventuellement dans la case orthodoxie? Bon, il y a assez peu de chance à Kinshasa. Or, ces catégories-là ont vieilli. Et ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest notamment, c'est véritablement la constitution d'un nouveau christianisme, de nouveaux types de christianisme, marqué par des influences endogènes, qui ne sont pas nécessairement importées ni du missionnaire européen, ni du missionnaire nord-américain, et les églises de réveil s'inscrivent de plein pied dans ces reconfigurations, dans ces mutations.
Donc, à bien comprendre, il s'agit d'un phénomène qui est ancien et nouveau, qui n'est pas homogène de toute
manière. Absolument.
Et quelles sont les raisons de la réussite de ces églises africaines, finalement?
Alors, je pense qu'un des éléments est à comprendre dans la perspective de l'histoire politique du XXe siècle de l'Afrique. L'Afrique a naturellement été colonisée, et colonisée violemment. Là, nous parlons notamment du Congo belge, effectivement de l'ex-Congo belge, où je me trouvais au début du mois de septembre. La colonisation belge a été quand même particulièrement douloureuse pour les populations, particulièrement dans la première partie de la colonisation. Or, le christianisme qui s'est implanté en Afrique de l'Ouest, et en particulier au Congo, durant la période coloniale, a été peu ou prou associé à l'aventure coloniale. À la décolonisation, les cartes ont été rebattues. Et en particulier au Congo belge, le catholicisme, qui était vraiment la religion favorisée par les autorités belges, le catholicisme s'est trouvé quelque peu suspecté d'accointance avec l'ordre ancien. Et dès lors, les nouvelles églises protestantes, et plus à la limite elles étaient nouvelles, mieux c'était, étaient quelque part vierges de cette accusation, puisque évidemment elles étaient nées après la décolonisation, on n'avait pas partie liée aux exactions du passé, et du coup elles se sont trouvées promues, sur le mode d'un christianisme endogène, effectivement postcolonial, qui est là non pas pour servir une forme d'oppression européenne, coloniale, mais pour servir l'intérêt des populations. Et ça renvoie à cette fameuse phrase du fondateur du Kenya, le président Kenyatta, qui disait « Oui, quand les missionnaires sont arrivés, ils nous ont appris à prier, à fermer les yeux, et pendant que nous fermions les yeux et que nous prions, les Blancs ont volé la terre. » Et ce christianisme-là des églises de réveil, c'est un christianisme du salut intramondain, si je puis dire. Alors, c'est un gros mot, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ça? Le salut intramondain, c'est en fait l'accent sur les bénéfices de la foi ici et maintenant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de fermer les yeux et de se laisser exploiter par les puissances extérieures, quelles qu'elles soient. Il s'agit d'être chrétien, mais d'ouvrir les yeux, d'améliorer sa condition physique, sa condition matérielle, sa condition sociale, sa condition éducative. Et donc, ces églises de réveil sont extrêmement axées sur la prospérité de l'individu. Alors, du point de vue de l'Europe, quand on regarde ça de loin, on est facilement tenté par le mépris, par une forme de mépris postcolonial, et de dire « Oh là là, mais regardez ces charlatans, regardez ces manipulateurs qui font miroiter toutes sortes de prospérité aux fidèles et qui s'enrichissent à leur détriment. » Alors, il y a effectivement des éléments qui permettent de soutenir cette hypothèse-là, hein, de la manipulation. Et il y a des dérives sectaires, c'est évident. De nombreux pasteurs autoproclamés sont à certains égards aussi les prédateurs de leurs propres fidèles. Ça, on ne peut pas le nier, ça existe. Il y a des dérives sectaires et on le repère sur de multiples terrains d'analyse, notamment par exemple les enfants sorciers, hein, les Cheguées à Kinshasa. Un certain nombre d'enfants ont été victimes d'accusations portées par des pasteurs d'église de réveil, hein, ont été finalement les boucs émissaires d'une sorte de chasse aux sorcières, de chasse aux sorciers, et on s'en prend aux plus faibles, et il y a donc des dérives tout à fait claires. Mais il n'y a pas que ça, encore une fois. Il n'y a pas que ça, et dans ces théologies de la prospérité, dans ces sermons de prospérité qui sont véhiculés par les églises de réveil, il y a aussi véritablement un accent sur, alors j'ai un mot anglais qui me vient à l'esprit, c'est « empowerment », c'est l'idée finalement que chaque fidèle, le plus pauvre soit-il, est béni de Dieu, est aimé de Dieu, que Jésus est mort pour lui, ressuscité pour lui, qu'il a de la valeur et qu'il peut s'en sortir, qu'il peut y arriver, qu'il peut guérir, qu'il peut se former, qu'il peut aboutir à un meilleur travail, un meilleur salaire et qu'il peut devenir un champion. Et ça, répété semaine après semaine, ça a des effets performatifs. Pour les fidèles, c'est vraiment quelque chose qui les mobilise dans un contexte, ne l'oublions pas, où l'État est quand même largement aux abonnés absents. Ça, c'est un autre élément de la problématique aussi. Vous me demandiez tout à l'heure pourquoi ça marche, pourquoi ces églises se développent. C'est un autre élément de la problématique. Il n'y a pas simplement la question de l'héritage colonial. Il y a aussi la question aujourd'hui d'États fantômes, d'États qui ne répondent pas finalement aux attentes des citoyennes et des citoyens, qui n'apportent pas les prestations sociales demandées. Et dans ce contexte-là, ces multiples églises qui se développent un peu comme des champignons fonctionnent aussi à certains égards comme des églises providence. C'est-à-dire qu'elles proposent aux fidèles des prestations, notamment en termes de redistribution. C'est très concret, hein. C'est par exemple des repas, hein, des choses très, très concrètes, encore une fois, proposent une redistribution, une solidarité que les fidèles ne trouveront pas ailleurs.
Justement, pour revenir à la relation avec l'État, entre les religieux et les politiques, quelles sont les relations, y a-t-il des relations entre ces religions et le monde politique en RDC?
Alors, il y a de multiples relations. C'est difficile de tout schématiser parce qu'en fait, encore une fois, nous sommes dans l'univers protestant ou hérité du protestantisme. Toutes les églises de réveil ne sont pas protestantes, mais sont issus de cette matrice-là, et donc il y a des stratégies très différenciées suivant les acteurs. On peut repérer schématiquement peut-être deux choses. D'une part, un certain nombre de ces églises fonctionnent comme une véritable alternative aux politiques, et un politique défaillant, et donc fonctionnent quelque part en subculture de résistance, dans un contexte politique où finalement les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient. Et de multiples églises, par exemple, c'est très concret, créent des hôpitaux, des écoles, voire même des équipes de foot. Donc ces églises assument une fonction politique dans un contexte de vacances de l'État. Donc ça, c'est un des aspects. Mais un autre aspect qui joue aussi, et qu'on repère non seulement au Congo RDC, mais qu'on repère aussi dans un certain nombre de pays voisins, c'est que ces prophètes, ces pasteurs, sont populaires. Ce sont souvent aussi des entrepreneurs médiatiques. Ils sont à la tête de radio, de télévision. Ils ont une audience importante. Et dès lors, ils sont courtisés par le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ils ont des effets d'écho. Leurs églises sont des chambres d'écho qui permettent de populariser à grande échelle un message politique, un message de mobilisation, quel qu'il soit. Et donc les acteurs de l'État, les acteurs politiques, sont tout à fait conscients de cela et tentent de courtiser ces pasteurs. Et donc il y a des jeux de clientélisme qui fonctionnent, qu'on ne peut pas nier, hein, qui fonctionnent au Congo RDC, qui fonctionnent au Congo-Brazzaville, qu'on repère aussi en Côte d'Ivoire, de multiples jeux de clientélisme qui compliquent considérablement la donne. Puisque, à certains égards, il paraît difficile d'imaginer qu'une église de réveil puissante soit à la fois dans une perspective de politique alternative, une perspective contre-culturelle, et qu'en même temps, le pasteur, quelque part, se fasse acheter par le pouvoir en place. Là, quelque part, il y a une tension interne qui travaille aujourd'hui l'ensemble du champ protestant d'Afrique de l'Ouest, particulièrement au niveau des églises de réveil.
On a aussi l'impression maintenant de retrouver ce mouvement congolais en Europe. Et est-ce qu'on peut réellement parler des diasporas protestantes africaines en Europe? Et est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion que vous utilisez dans vos travaux de territoire circulatoire?
Oui, merci, merci. C'est un sujet important à traiter et qui touche effectivement aussi, je dirais, la population parisienne tous les jours, puisque lorsqu'on va dans les églises, et qu'elles soient d'ailleurs catholiques ou protestantes, on repère aujourd'hui la présence de cette immigration subsaharienne. Rappelons qu'au lendemain de la guerre d'Algérie, il y avait environ 20 000 subsahariens présents en France. C'était une toute petite goutte d'eau. Aujourd'hui, d'après les dernières statistiques, on serait autour de 700 000 migrants subsahariens. Or, de très nombreux migrants subsahariens, et notamment congolais, sont chrétiens, sont catholiques ou protestants, et sont très généralement pratiquants. Ils viennent d'une culture beaucoup moins sécularisée que la culture française. Ils sont marqués aussi par la laïcité. Il y a une laïcité africaine, c'est très important de le souligner, et une laïcité congolaise, qui est d'ailleurs constitutionnelle. Donc ça existe, mais ce n'est pas la laïcité que nous connaissons, en tout cas en France. Il y a un certain nombre d'écarts, de décalages. Donc lorsqu'ils arrivent en France, lorsqu'ils s'installent notamment en Île-de-France, eh bien ils vont fréquenter les paroisses catholiques et protestantes, et ils sont là souvent très nombreux. Et comment comprendre tout cela? Comment ça fonctionne? Alors vous avez parlé de diaspora. Effectivement, il y a un aspect diasporique. Donc, il y a un certain nombre de populations qui sont installées en Europe et qui entretiennent des liens de distance avec leur espace d'origine, leur espace de départ. Mais en même temps, c'est plus complètement comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. On s'aperçoit de plus en plus qu'il y a énormément de circulation. Énormément de circulation. À la fois des personnes, et notamment évidemment des pasteurs, des prophètes, mais aussi des chantres, des groupes gospel. Marie Misamou, par exemple, qui est une grande star du gospel congolais. On circule volontiers en Belgique, en France, à Paris, au Québec, et fait d'ailleurs sa publicité en montrant le nombre de vues sur YouTube de ses vidéos. Et on voit aussi là le rôle du numérique dans ces recompositions actuelles du religieux. Et donc, on n'est plus simplement dans l'optique d'un migrant qui quitte un point A pour s'installer à un point B, et puis c'est fini. L'optique de la diaspora, je dirais, un petit peu à l'ancienne, telle qu'on l'analysait. On est dans une circulation transnationale, où d'ailleurs, nombre de migrants finissent par se réinstaller dans leur pays d'origine. On n'est pas simplement dans un départ linéaire. Les choses circulent. Et lorsqu'on est à Château-Rouge, par exemple, à Paris, près du métro Château-Rouge, dans ce quartier, on est quelque part dans un territoire transnational congolais. On est bien sûr en France, mais on est aussi un peu au Congo. En tout cas, dans ce territoire circulatoire diasporique congolais, où on pourra retrouver les mêmes épiceries, les mêmes tissus, les mêmes CD de musique chrétienne congolaise, les mêmes matériaux de prédication, on les retrouvera aussi. sans finalement qu'on soit tellement dépaysé, hein, de Kinshasa à Paris, Bruxelles, voire même à Londres, puisqu'il y a des églises congolaises très importantes également à Londres, des églises francophones, hein, de plusieurs milliers de fidèles. On est quelque part dans un même espace. Et je crois que cette notion de territoire circulatoire qui nous vient au départ d'Alain Tarius, et qui a été ensuite réutilisé par Sarah Demar dans sa thèse sur les églises congolaises, cette notion est promise à un bel avenir. Je suis très heureux de pouvoir l'utiliser dans mes propres recherches, parce que je crois que c'est très pertinent pour ce 21e siècle religieux qui change sous nos yeux et pour lequel nous avons à construire de nouveaux outils.
Merci Sébastien Fath pour cet éclairage sur la francophonie protestante et notamment sur la situation de la République démocratique du Congo. Je rappelle donc pour ceux qui voudraient approfondir ces sujets de consulter votre blog qui quotidiennement fait les points sur les questions liées au protestantisme évangélique et plus largement aux thèmes liés à la religion et à la laïcité. Mais surtout, je rappelle le dernier numéro de la revue Afrique contemporaine qui porte sur le nouveau christianisme en Afrique, numéro que vous avez dirigé avec Cédric Maillargues.